de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Une boule à facettes pour une personnalité sans double face. C'est ce que disaient d'elle ceux qui l'ont connue. Elle, c'est Irène Joliot-Curie. Voici un portrait mosaïque de cette femme, scientifique éminente, membre du gouvernement du Front populaire et mère de famille. Une plongée aussi dans une certaine culture de la gauche de l'entre-deux-guerres. Souvenir d'Irène Joliot-Curie, c'était dans les après-midi de France Culture, le 17 mars 1976.
Pour commémorer la mémoire d'Irène Joliot-Curie, nous aurions pu choisir une voie qui nous eût mené à une explication de ses travaux. Mais cela eût impliqué un développement tout autre, et en tout cas une toute autre émission, si ne serait-ce que dans sa durée. Plutôt que de trop peu laisser dire, j'ai préféré, quant à moi, choisir une approche complètement différente et tenter de tracer réellement le portrait de la femme de science, certes, du serviteur de l'État, de l'amie, de la mère de famille que fut Irène Joliot-Curie. Et ce sont ces aspects de sa personnalité que vont souligner tour à tour, avec leur manière et leur sensibilité, le professeur Jean Théillac, aujourd'hui haut commissaire à l'énergie atomique, Angèle Pompéi, Hélène Langevin et Pierre Joliot, Angèle Pompéi, l'amie de jeunesse, Hélène Langevin et Pierre Joliot, les enfants même d'Irène Joliot-Curie, ainsi que le professeur Pierre Bicard, qui est à mes côtés et qui évoquera, lui, la personnalité du serviteur de l'État qu'il connut bien, ayant été son chef de cabinet. Et c'est à Pierre Bicard que je proposerai d'abord d'écouter une voix qu'il a bien connue.
En utilisant l'énergie condensée par la nature dans la matière même, nous faisons appel à une source d'énergie qui date d'une époque, il y a plusieurs milliards d'années, où la matière de notre Soleil, mélangée peut-être à la matière de beaucoup d'autres étoiles, subissait de continuelles transmutations qui se produisaient spontanément à la température fantastique qui régnait alors. Là, dans ce creuset céleste, se sont formés les divers atomes que nous avons trouvés sur notre Terre refroidie. Certains ont emmagasiné de l'énergie qu'ils peuvent nous restituer, si nous sommes capables de déclencher la réaction, tout comme le charbon nous a livré ses richesses le jour où on a su l'allumer. L'existence de cette source d'énergie n'a été révélée qu'à la fin du siècle dernier, quand Becquerel et Pierre et Marie Curie ont découvert la radioactivité et les radioéléments naturels. En quelques années, on réalisa pleinement l'importance de cette découverte, même dans le grand public, bien que les applications pratiques fussent rares, car on ne pouvait utiliser que l'énergie dégagée spontanément, mais parcimonieusement par ses corps. Au cours des 15 dernières années, grâce à un ensemble de travaux de savants de divers pays, parmi lesquels ceux de la France ont tenu une place importante, nous avons appris à allumer le feu. Qu'importe que nous ne sachions encore utiliser que l'uranium, élément relativement rare. Avant l'an 2000, que pourront encore voir nos enfants, l'homme saura sans doute brûler d'autres éléments de la croûte terrestre.
Ce texte a été prononcé par Irène Joliot-Curie en 1948, année singulièrement importante pour le développement de l'énergie atomique en France, puisque c'est celle où, le 15 décembre, si je me souviens bien, était mise en fonctionnement la pile atomique Zoé. Pierre Bicard, ce que dit Irène Joliot-Curie pourrait définir en ce très bref temps ce qu'elle fut, sous bien des aspects, ne pensez-vous pas?
Certes, l'exposé que je viens d'entendre, je dois dire avec beaucoup d'émotion, parce qu'il me ramène pas mal d'années en arrière, définit parfaitement les préoccupations essentielles qui étaient celles d'Irène Joliot-Curie, à savoir la science pour connaître et la science au service de l'humanité.
C'est d'une autre manière ce que va évoquer le haut commissaire à l'énergie atomique Jean Théillac. Il a bien voulu souligner la personnalité du chercheur scientifique que fut Irène. Il a tenu à montrer l'exemplarité de son attitude de chercheur. Il a aussi accepté, ce dont je le remercie, d'exclure de sa formulation toute approche qui eût été par trop technologique peut-être pour nos auditeurs. Nous allons entendre ce que Jean Théillac dit d'Irène Joliot-Curie.
Il est peut-être bon que je vous dise quel a été mon premier contact avec Irène Joliot. Je suis entré au laboratoire en 1945, alors que je venais de faire le certificat de physique nucléaire et radioactivité, où elle enseignait. Et c'est elle qui m'a fixé mon premier travail de recherche. Elle m'a demandé d'abord de m'initier à la technique en me demandant de bien vouloir remettre en marche un appareil Wilson que Frédéric Joliot avait monté à l'Institut du Radium. Puis après quelques mois, ayant plus ou moins fait marcher cet appareil, je suis allé lui rendre compte de ce premier contact avec le laboratoire. Et c'est alors qu'elle m'a dit, « Eh bien, écoutez, personnellement, je vais entreprendre un travail de recherche sur l'ionium. » Elle m'a dit, « Je vais m'intéresser au rayonnement gamma. Pourriez-vous regarder s'il y a des électrons démis ?» Et pour moi, ça a été le début dans la recherche, effectivement, de toute une série de travaux que j'ai faits sur la conversion interne et qui m'ont conduit à ma thèse. Je rappelle cette anecdote tout simplement pour montrer qu'Irène était une femme de laboratoire avant tout. Et à cette époque où elle était déjà prix Nobel depuis une dizaine d'années et où elle avait beaucoup de charges, notamment avec le démarrage du commissariat à l'énergie atomique aux côtés de son mari, les jeunes chercheurs pouvaient la trouver au laboratoire, parler avec elle des questions scientifiques les concernant, leur travail personnel de thèse, comme je viens de le dire, et on sentait qu'elle était complètement disponible pour ces jeunes chercheurs.
Ce que Jean Théillac, aujourd'hui haut commissaire à l'énergie atomique, évoquait, c'était ses premières relations avec Irène Joliot-Curie, qui fut aussi commissaire à l'énergie atomique en un certain temps. Et maintenant, vous allez constater comment Jean Théillac peut, avec beaucoup de concision, montrer l'essentiel de la personnalité d'Irène Joliot dans ses rapports avec les chercheurs.
La découverte de la radioactivité artificielle par Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot, qui leur a valu le prix Nobel, n'est pas et de loin la seule contribution importante qu'ils aient apportée à la science. Et si vous me posez la question relativement à Irène Joliot-Curie, je voudrais citer l'apport qu'elle a fait plus spécifiquement à la découverte de la fission. Irène Joliot-Curie, dans l'équipe qu'elle constituait avec son mari, était peut-être la personne qui s'intéressait le plus aux problèmes de radiochimie. Elle tenait ça vraisemblablement de sa mère, Marie Curie, qui avait su tout à fait au début de son travail de laboratoire d'Irène, avait su lui demander de faire des travaux aussi bien dans le domaine de la chimie que dans le domaine de la physique. Et c'est pour ça que lorsque les physiciens se sont penchés sur le problème de savoir si on pourrait produire des éléments transuraniens en bombardant les derniers éléments, l'uranium et le thorium du tableau de Mendeleïev, eh bien, Irène s'est intéressée à cette question parce que, à la base, il fallait travailler avec la radiochimie. Je pourrais rajouter quelque chose là qui montre les qualités exceptionnelles qu'Irène avait du point de vue de la recherche. Ces qualités exceptionnelles de ténacité, de précision dans le travail et de modestie dans l'expression des résultats. Il fallait effectivement avoir toute la compétence et toute la ténacité d'Irène pour entreprendre les expériences que je viens de rappeler dans le domaine de la fission.
Si en 1976, on interroge le haut commissaire à l'énergie atomique que vous êtes, Jean Théillac, pour savoir ce que dans le monde d'aujourd'hui la physique est devenue depuis qu'Irène a disparu, et quelle est la contribution que ce monde doit lui reconnaître? Que diriez-vous?
Aujourd'hui, la vie des laboratoires a bien changé depuis cette époque. Les expériences se sont considérablement sophistiquées. Les accélérateurs qu'il faut avoir pour pouvoir effectuer des recherches compétitives sont devenus eux aussi beaucoup plus complexes. Le travail se fait beaucoup plus en équipes nombreuses, avec un certain nombre de physiciens, un certain nombre de techniciens. Les services techniques des laboratoires, eux aussi, ont une importance beaucoup plus grande. Mais ce qui reste fondamental, ce sont les qualités du chercheur. Et les qualités que le chercheur doit avoir aujourd'hui sont les qualités morales que je rappelais il y a un instant et qu'Irène avait au plus haut degré. Et ce que Irène a su transmettre à ses élèves, en dehors du savoir, ce sont ses qualités morales. La science d'aujourd'hui n'en est pas arrivée par un brusquement de l'étape que je rappelais de 1945 à celle d'aujourd'hui, 1976, mais elle a évidemment progressé. Et Irène a été une des personnalités qui a le plus contribué en France à provoquer cette évolution. Irène était un directeur de laboratoire exceptionnel, parce que un bon directeur de laboratoire doit avoir au moins deux soucis. Le premier, c'est le travail de recherche de ses chercheurs, bien sûr, mais l'autre est de se préoccuper que le laboratoire se renouvelle en ce qui concerne ses possibilités de travail, ses moyens d'équipement. Et dans le domaine de la physique nucléaire, et à cette période, notamment dans les années 1945-1950, les moyens à mettre en œuvre étaient relativement importants. Il n'était pas possible de poursuivre des travaux de recherche en physique nucléaire au niveau où ils devaient se trouver sur le plan international, avec les moyens dont nous disposions à l'Institut du Radium. Il fallait absolument obtenir des équipements nouveaux, des accélérateurs, et c'était un souci permanent d'Irène Joliot-Curie. Elle avait, dès 1942 d'ailleurs, écrit au recteur pour que des terrains soient achetés et que de grands laboratoires de recherche puissent s'édifier dans la région parisienne. Et vers 1950, Irène avait demandé que de tels laboratoires puissent être constitués et avait fait des efforts pour obtenir des crédits pour que soient mis en place des équipements importants. C'est la naissance d'Orsay. Nous avons travaillé à établir une liste d'équipements nécessaires. Dans les années 1952-1953, Irène faisait des démarches pour obtenir les moyens financiers pour pouvoir acheter ces équipements. Et le terrain a été mis à la disposition de l'université en 1955. Et c'est en 1956, au mois de janvier, que le premier coup de pioche a été donné. Malheureusement, Irène est morte en mars 1956.
Je tiens à remercier personnellement le haut commissaire à l'énergie atomique Jean Théillac d'avoir su évoquer, comme il vient de le faire, la personnalité d'Irène Joliot-Curie sous deux aspects fondamentaux, au moins aspects fondamentaux que nous allons retrouver tout au long de cette brève évocation. Pierre Bicard, tout à l'heure, vous nous parlerez du sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, mais en un seul mot, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez retrouvé Irène Joliot-Curie, telle que vous l'avez si longtemps connue, à travers les mots que prononçait Jean Théillac?
Oui, j'ai parfaitement retrouvé toute la carrière scientifique d'Irène Joliot-Curie et la rigueur du développement de cette carrière scientifique. Georges Léon, si vous me permettez une anecdote, au début de son exposé, évoquant ses premiers travaux, Jean Théillac parlait de l'appareil Wilson. Son mari à Irène, Frédéric Joliot, aimait toujours à parler de sa chambre de Wilson, et un jour que présentant cette expérience à un visiteur en présence d'Irène, il dit « La chambre de Wilson, c'est la plus belle expérience du monde. » Irène l'interrompit en lui disant « Non, non, la plus belle expérience du monde, c'est l'accouchement d'une mère. »
Cet aspect-là, Pierre Bicard, nous allons, je crois, le sentir filigranant le propos que nous a tenu très ému Angèle Pompéi, qui fut l'amie de jeunesse d'Irène Joliot-Curie.
J'ai rencontré Irène Curie au cours d'une excursion géologique conduite par M. Gentil en Auvergne. C'était des élèves de l'école de Sèvres qui y étaient conviés avec des étudiants de la Sorbonne. Et c'est là que j'ai connu Irène Curie. J'ai su qu'elle faisait partie de cette excursion pour se renseigner sur les roches radioactives qu'on pouvait rencontrer dans cette région. Et puis aussi, elle retrouvait, en dehors de cet intérêt, elle retrouvait un peu son père, parce qu'elle savait que son père s'était beaucoup intéressé à la géologie, à la forme du sol. Et elle était très contente quand elle pouvait découvrir les traces d'une ancienne vallée glaciaire ou une capture de rivière. Donc il y avait un double intérêt, un intérêt général, ce qu'on peut faire de la Terre et aussi comment on peut la regarder. Les promenades en montagne, eh bien, on les préparait sur des cartes d'état-major très soigneusement, soit qu'un pays nous intéressait parce qu'on en avait entendu parler, soit que c'était un complément à une excursion qui avait été faite l'année précédente. Irène était très bonne marcheuse, excessivement patiente, très gaie en cours de route et très frugale aussi. Elle détestait les haltes dans les restaurants. Il fallait que ça se passe le plus possible dehors. Elle adorait l'air, l'eau fraîche et la montagne. Et ce qui fait que faire des promenades avec elle était infiniment agréable.
Je crois qu'indépendamment de vos plaisirs communs en montagne, il y avait entre vous un autre facteur de communion, et c'est le folklore.
Oui, et au cours de ces excursions, Irène m'avait fait part de son goût pour les chansons populaires. Elle les chantait avec une voix un peu mince, mais excessivement juste. Et elle exigeait de vous, quand on les chantait ensemble, la justesse du son et surtout le rythme. Elle vous les faisait répéter à satiété jusqu'à ce que ça soit à peu près parfait.
Vous êtes une physicienne, vous aussi. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez été amenée à côtoyer la physicienne Irène Joliot ?
Oh oui, j'ai travaillé au laboratoire, j'ai même fait des mesures pour Madame Joliot, et j'ai pu connaître d'abord son goût pour le travail manuel. Elle était d'une extrême habileté, surtout en chimie. Elle manipulait des capsules excessivement petites. Elle était d'une extrême patience pour les mesures. Et elle était d'une extrême rigueur pour la rédaction des résultats. Elle vous les faisait rédiger plusieurs fois.
En montagne, chantant ou dansant, dans son laboratoire, au fond, c'est le même être que vous avez toujours connu.
Toujours. Elle n'était pas à double face, c'était toujours la même face. Si vous voulez, on peut dire que c'était une sorte de diamant. Elle n'avait pas de reflet, si vous voulez. Elle était toujours telle qu'on la laissait, telle on la retrouvait. Et elle s'intéressait à vous, toujours, pas mièvrement, mais pour les choses fondamentales. Et elle discutait avec vous des choses importantes de l'existence. 20 ans après sa disparition, elle est toujours aussi vivante, car ce qu'il y a de remarquable chez elle, c'est qu'elle laisse un souvenir qui ne peut absolument pas s'effacer. Et sa manière de regarder les événements et les gens était véritablement une leçon, parce qu'elle apportait à ça une rigueur, et une générosité aussi. Elle n'était pas absolument pas mesquine dans sa manière de voir les gens. Elle avait même beaucoup de curiosité pour les esprits différents.
Les esprits différents. Je crois que Hélène Langevin et Pierre Joliot, que j'ai rencontrés, c'est-à-dire les enfants d'Irène Joliot-Curie, étaient sensibles, aussi de la même manière qu'Angèle Pompéi, à l'attitude de leur mère.
Ce que je retiendrai surtout, c'est en fait une extraordinaire disponibilité de ma mère. Et ceci, pas seulement pour des discussions, si je puis dire, de niveau élevé, mais je me souviens quand je revenais de l'école, eh bien, je lui racontais tous les petits incidents, tout ce qui se passait dans l'école, et elle était toujours disponible et toujours intéressée par tout ce qui faisait ma vie. Et un autre aspect pour moi qui me frappe beaucoup, c'est que cette permanence des contacts que j'ai eu avec ma mère fait que il me serait impossible pour moi de me souvenir si certaines discussions que j'ai eues avec elle, je l'ai eues à l'âge de 10 ans ou à l'âge de 20 ans. Pour moi, ça fait quelque chose de parfaitement continu et je ne peux voir aucune rupture dans le style de contact, ce qui n'est par exemple pas le cas du tout avec mon père, où j'ai eu des contacts intellectuels tout à fait différents à partir de l'âge de 15 ou 16 ans. Je veux dire, c'est une chose tout à fait différente.
Vous êtes l'un et l'autre des chercheurs scientifiques aujourd'hui, des parents aussi. Les conditions dans lesquelles vous exercez votre métier de chercheur sont complètement différentes, bien sûr, de celles qu'a connues Irène Curie lorsqu'elle venait ici où nous sommes comme préparatrice de Marie Curie. Est-ce qu'elle a beaucoup parlé à ses enfants de la difficulté d'être chercheur en une certaine époque ?
Ça, je crois que, enfin, de mon point de vue, c'est un problème qui n'existait pas pour ma mère. Je crois qu'elle est née dans un milieu de chercheurs et qu'elle ne s'est pratiquement jamais posé même ce problème. Elle était à l'aise dans ce métier. Elle l'a exercé pleinement et je ne crois pas qu'elle nous a jamais parlé des difficultés du métier de chercheur. Elle baignait tellement, elle avait toujours tellement baigné dans cette vie que je crois qu'elle n'a jamais ressenti ces difficultés de mon point de vue.
Bon, je serais assez d'accord avec Pierre sur le fait de dire que le métier qu'on appelle aujourd'hui de chercheur et qui était la vie de laboratoire était tellement intégré dans sa propre vie que je crois qu'elle ne concevait pas qu'elle aurait pu vivre autrement. En ajoutant ceci, c'est qu'elle insistait souvent sur l'idée que ça n'était pas lié, disons, à l'importance des travaux qu'elle y faisait. Elle aurait été heureuse de vivre au laboratoire, presque pour faire des manipulations, même sur des résultats. Elle disait souvent, parfois, ce sont des petits travaux qui m'ont donné le plus de joie, tout le monde les a oubliés, et j'ai été heureuse de les faire, et j'aurais été heureuse si, dans ma vie, il n'y avait eu que ces petits travaux. Et quand je dis que c'était complètement intégré à sa vie, je ne voudrais pas qu'on croie, et ce que nous venions de dire à l'instant n'est pas du tout dans ce sens, que c'était sa seule vie. Mais bon, une définition du bonheur pour elle, c'était un métier intéressant, et pour elle, c'était celui-là, un mari qu'on aime et des enfants. Je crois que ces trois termes, chez elle, étaient totalement inséparables.
Oui, je crois que la seule rupture qu'il y a eu dans sa vie de chercheuse, ça a été l'époque où elle n'a plus pu travailler directement avec mon père. Je crois qu'aussi bien pour mon père que pour ma mère, c'est la seule chose qui a représenté à la fois une rupture et que je crois qu'ils ont regretté toute leur vie. La partie la plus heureuse de leur vie a certainement été la partie de leur vie où ils ont pu collaborer ensemble. Et quand ils sont arrivés tous les deux à un niveau de notoriété tel qu'ils ont été un peu surchargés de responsabilités, ceci a correspondu pour l'un et pour l'autre incontestablement une certaine diminution de leur joie de vivre. Ça, je crois que c'est le seul point peut-être dont j'ai entendu ma mère se plaindre dans son métier, c'est de ne plus pouvoir continuer à collaborer directement, personnellement, avec mon père.
C'est certain que les difficultés, par exemple celles auxquelles mon frère faisait allusion, naturellement toutes les énormes difficultés dues à la guerre, et également les difficultés politiques d'orientation, enfin les difficultés de l'après-guerre, bon, sont des choses qui, y compris pour ma mère, qui avait, si on peut dire, des opinions très fermes sur de gauche, sur un certain nombre de points, qui a participé à un certain nombre d'actions, bon, d'une part qui a été ministre à l'époque du Front Populaire, mais qui a aussi pris position sur des problèmes de la paix après-guerre. Tout ce contexte, ce serait tout à fait inexact, je crois, de dire que ça n'a pas du tout rejailli à aucun moment, ça c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à la vie familiale, finalement, un équilibre a toujours été gardé. Il y a peut-être un point sur lequel je voudrais enchaîner, parce que il y a les gens qui parviennent à cet équilibre et qui sont heureux et qui n'apprécient pas quelles sont les conditions qui lui permettent d'avoir ça. C'est sûr que une partie des conditions, c'est le caractère et la valeur personnelle des gens, c'est indéniable, et de ce point de vue, il ne faut pas le minimiser. Mais je me souviens de conversations avec ma mère, justement à propos du travail des femmes. Et je me souviens combien elle m'avait expliqué, à moi qui imaginais que le travail des femmes, qui était la chose la plus naturelle du monde pour un enfant de mon genre, dans cette famille-là, n'était pas simplement, pour toutes les femmes, un travail intéressant et tel que celui qu'elles pratiquaient. Je l'entends me dire, n'oublie pas que les femmes qui travaillent, l'immense majorité d'entre elles, le font avec des métiers qui ne sont pas intéressants, qui sont fatigants, qui sont épuisants et qui apportent peu de satisfaction. Et elles le font pour des raisons économiques. Et c'est une... il faut apprécier cela. Autrement dit, je crois qu'elle avait un équilibre de ce point de vue. Ça a marqué notre éducation. Quant à l'idée que, par exemple, une fille autant qu'un garçon doit aspirer à un métier, etc. Mais elle avait une vue très concrète du fait qu'il y avait tout un contexte social très important à modifier pour que ce qu'elle avait, elle, sous une forme ou sous une autre, des millions de femmes puissent le trouver.
Je crois que la liaison va être tout à fait normale, Pierre Bicard, avec ce que vous voulez, tenez à nous dire. Irène Joliot-Curie envisageait alors comme serviteur de l'État, puisqu'elle fut ministre dans le gouvernement de Léon Blum. En quelles circonstances est-elle devenue sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique ?
Elle a été non seulement ministre dans le gouvernement de Léon Blum, plus exactement sous-secrétaire d'État, mais ultérieurement commissaire à l'énergie atomique, comme Jean Théillac l'a rappelé. Eh bien, lorsqu'on a entendu la peinture de la vie familiale et de la vie d'Irène Joliot-Curie au laboratoire, faite par ses enfants, faite par Angèle Pompéi, faite par Jean Théillac, on a du mal à imaginer Irène Joliot-Curie devenant ministre et se plongeant dans le milieu politique. Et pourtant, ça lui est arrivé de la manière suivante. Dès que Léon Blum a été chargé de constituer le gouvernement de Front Populaire, il a fait venir Frédéric Joliot. Et il lui a tenu le propos suivant que Frédéric Joliot m'a rapporté presque en sortant du bureau de Léon Blum. Voilà, le Front Populaire veut marquer deux choses. Premièrement, la place de la recherche scientifique dans l'activité générale du pays en créant un département ministériel de la recherche scientifique. Deuxièmement, introduire des femmes dans le gouvernement de la France. Or, a indiqué Léon Blum, il m'est impossible d'introduire des femmes dans mon gouvernement si la plus célèbre et la plus douée, la plus capable d'entre elles, c'est-à-dire votre femme, n'accepte pas de faire partie du gouvernement. Il a fallu beaucoup de persuasion à Frédéric Joliot pour persuader son épouse. Et finalement, elle a accepté d'être ministre à la condition que ce serait pour un temps très limité et qu'au bout de quelques mois, elle céderait la place à Jean Perrin qui, depuis de nombreuses années, bataillait en public et en privé pour obtenir les ressources nécessaires à la recherche scientifique. Et effectivement, après quelques mois, Irène Joliot-Curie a donné sa démission et a été remplacée au poste de sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique par Jean Perrin.
Pierre Bicard, vous étiez le chef de cabinet d'Irène Joliot-Curie. Quel était son comportement de ministre ?
Son comportement de ministre étonnerait beaucoup de ministres ou de ministrables. C'est difficile à le caractériser. Mais par exemple, elle tenait, on y retrouve sa rigueur scientifique, à ce que jamais dans les réponses qu'elle envoyait, on ne déformât sa pensée. Et je me rappelle qu'un des collaborateurs du cabinet lui présentant un jour une lettre à signer dans laquelle il avait indiqué qu'elle était absolument navrée de ne pouvoir participer à telle manifestation. Et elle lui dit, pas du tout, je ne signerai pas cette lettre, je ne suis pas navré de ne pas aller à cette manifestation et je ne vois pas pourquoi je le mettrais sur une lettre que je suis navré. Refaites-moi cette lettre sur un autre ton.
Il court une anecdote sur la carrière ministérielle d'Irène Joliot-Curie. J'aimerais bien que vous la rappeliez brièvement. C'est tout à fait au début de cette brève carrière.
Au début de cette brève carrière, un jour, Irène arrive place Fontenoy, où se trouvait le sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique. La porte du sous-secrétariat est fermée. Le garçon, l'huissier, était en retard. Alors très tranquillement, Irène s'est assise sur l'escalier, puis elle a attendu que l'huissier vienne lui ouvrir la porte. Une de ses difficultés était de reconnaître les ministres. Et chaque fois qu'il y avait un conseil de cabinet, elle avait deux ou trois messages pour deux ou trois collègues. Alors elle partait en avance et elle allait dans la salle du conseil repérer les places où étaient assis les collègues auxquels elle devait présenter des requêtes.
Je vous remercie d'avoir évoqué aussi brièvement cette partie de vos rapports amicaux, car ils demeuraient amicaux et non hiérarchisés, je le pense, d'Irène Joliot-Curie. Il ne nous reste que très très peu de temps. Mais je crois quand même que vous pourriez nous dire quelle était la jeune fille que vous avez connue, peut-être même avant qu'elle n'épousât Frédéric Joliot en 1926, la fille de Pierre et de Marie Curie.
Je n'ai réellement connu Irène Joliot-Curie qu'après son mariage avec celui qui a été mon camarade d'école et mon ami tout au long de son existence. Et c'était une femme entièrement dévouée à son travail, à sa famille, à ses enfants, et qui avait des connaissances très étendues et un éclectisme surtout. En particulier, elle était très amateur de poésie et elle a traduit d'excellentes manières des très beaux poèmes de Kipling. C'est surtout Kipling, je dois dire, qui attirait Irène Joliot, et elle a elle-même fait des belles traductions des œuvres de Kipling. En dehors de cela, elle avait des idées extrêmement nettes et claires au point de vue politique et au point de vue social, et quel que soit l'interlocuteur, elle fonçait comme le taureau dans une course sans jamais vouloir prendre la moindre feinte ni accepter la moindre concession dans l'expression de ses opinions. Elle a beaucoup facilité mon travail pour aider les républicains espagnols à cette époque, et certains se souviennent peut-être qu'elle a fait un célèbre voyage aux États-Unis pour les républicains espagnols, qu'elle a été arrêtée à Ellis Island, ce qui d'ailleurs a contribué à faciliter ses conférences de presse et sa collecte d'argent pour les républicains espagnols.
Je vous remercie d'avoir rassemblé tous ces traits. Nous aurions pu, je le disais tout à fait au début, Sylvie, prétendre à une autre approche, mais c'est la personnalité humaine d'Irène Joliot-Curie qu'en ce jour anniversaire de sa mort, nous avons voulu surtout et essentiellement souligner.
Vous venez d'entendre Souvenir d'Irène Joliot-Curie, une émission diffusée pour la première fois le 17 mars 1976 sur France Culture. Producteur, Georges Léon. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur franceculture.fr à la page des nuits.